Chapitre 71. Verna se réchauffa un moment les mains au-dessus de la bougie, puis elle regarda le livre de voyage posé sur la table. Tout autour de sa petite tente, le camp bruissait d'activité, comme toujours. Habituée à ces bruits, la dame abbesse finissait par ne plus les entendre. En Dara, les nuits d'hiver étaient glaciales, mais au moins les réfugiés des contrées étaient en sécurité dans ce pays. Verna comprenait parfaitement les angoisses de ces gens. Pendant longtemps, ils avaient ignoré l'existence de Dara, qui était ensuite devenu un ennemi terrifiant. Depuis, tout avait changé, mais il faudrait du temps pour que les esprits s'y habituent. Dehors, des loups hurlaient à la mort sur le flanc des montagnes couvertes de neige. Dans cette atmosphère de fin du monde, Verna se demanda si elle allait oser ouvrir le livre de voyage. Depuis des mois, elle vérifiait régulièrement sans jamais découvrir de message. Ce soir, elle n'espérait plus en trouver un. En jetant dans le feu le livre d'Anna, Callan avait coupé la communication entre les deux dames abbesses. Mais Anna était pleine de ressources, et avec elle, il ne fallait préjuger de rien. De toute façon, jeter un coup d'œil ne pouvait pas faire de mal. Verna ouvrit le livre. Et ce soir, il y avait un message.
« Verna, si tu me lis, j'attends de tes nouvelles. »
La dame abbesse en exercice sortit la plume spéciale glissée dans la tranche du livre et se mit à écrire.
« Dame abbesse, vous avez réussi à restaurer votre livre? C'est formidable. Où êtes-vous? Tout va bien? Vous avez trouvé Nathan ?»
La réponse arriva presque immédiatement.
« Verna, je vais très bien. J'ai réussi à sauver le livre avec l'aide de gens que tu ne connais pas. L'essentiel, c'est qu'il soit de nouveau plus ou moins fonctionnel. Je cherche toujours le prophète, mais j'ai de solides indices et je suis sur sa piste. Et toi, où en es-tu? Comment tourne la guerre? Warren et Callan vont bien? Et Zed, toujours aussi casse-pied? Cet homme pourrait énerver un rocher. As-tu des nouvelles de Richard ?»
En voyant le nom de Warren s'afficher sur la page, Verna ne put retenir ses larmes.
« Dame abbesse, » répondit-elle, « des choses horribles sont arrivées. »
Là non plus la réponse ne tarda pas.
« Je suis désolé, mon enfant. Ce soir, je ne bougerai pas d'où je suis, alors raconte-moi tout. Je me fais tellement de soucis, tu sais que je t'aime comme une fille. »
Verna haussa la tête. Désormais, elle ne doutait plus de l'amour d'Anna.
« Je vous aime aussi, dame abbesse, mais j'ai bien peur d'avoir le cœur brisé. »
Debout sur la jetée, Callan et Richard contemplaient la ville au-delà du fleuve. Le calme était revenu désormais. Pendant des semaines, diverses factions s'étaient affrontées pour le pouvoir, puisque la place restait vacante depuis la déroute de l'ordre impérial. Bien entendu, tous les groupes juraient qu'ils défendraient les intérêts du peuple, édicteraient des lois équitables et amélioreraient le sort de tous en s'assurant que chacun contribue au bien commun. Après des décennies de tyrannie à vocation altruiste, la décadence et la mort étaient les seuls résultats visibles. En dépit des cimetières pleins d'innocentes victimes et de la misère générale, les chefs potentiels servaient le même discours frelaté au peuple. Pas mal de gens les croyaient, les jugeant sur leurs bonnes intentions apparentes. Beaucoup de frères et de responsables de l'ordre étaient morts, d'autres s'étant échappés. Mais certains n'avaient pas quitté la ville et ils tentaient de reprendre les rênes du pouvoir, avec l'idée d'étouffer peu à peu la flamme de la liberté, afin que les choses redeviennent comme avant. Les citoyens libres d'Alter Rang, dont le nombre grossissait chaque jour, écrasaient impitoyablement ces groupuscules chaque fois qu'ils mettaient le nez hors de leur tanière. Sur ce point, Nietzsche avait beaucoup aidé les insurgés. Connaissant les méthodes de ces hommes, elle savait où ils aimaient se terrer et les dénichait avec le flair d'un chien de chasse. Aujourd'hui, les forces qui complotaient contre la liberté craignaient plus que tout le fléau qu'elles avaient créé et qu'on nommait la maîtresse de la mort. Cependant, nul ne pouvait dire si la flamme de l'insurrection se propagerait dans tout l'Ancien Monde. Pour l'instant, c'était encore une minuscule étincelle dans un océan d'obscurité. Mais Richard affirmait que de telles lueurs se voyaient de très loin. Pour le moment, Le sorcier et sa femme n'avaient aucune nouvelle de ce qui se passait dans le nord. Le lien n'étant plus brouillé par la magie de Nietzsche, les Darans devaient de nouveau savoir où était leur seigneur, et ils lui enverraient sans doute des messagers. En tout cas, Kara était soulagée de sentir son seigneur à travers leur connexion magique. Richard avait écouté avec intérêt les nouvelles que lui apportaient sa femme et son ami. La guerre n'avait pas bien tourné comme il le prévoyait, forçant les citoyens d'Aïdindril à un exode vers Dara avant l'arrivée de Jagang au printemps ou à l'été prochain. Apprendre que le seigneur Ral avait porté un coup puissant au cœur même de l'ancien monde redonnerait du cœur au ventre aux soldats et aux civils. Sans nul doute, il se réjouirait d'apprendre que la mère inquisitrice, en pleine forme, vivait aux côtés de son mari. Des dizaines d'hommes s'étaient proposés pour aller porter ces précieuses nouvelles dans le nord. Bientôt, tout le monde dans l'Empire d'Aran serait informé de la grande victoire obtenue dans le sud. Plus que des nouvelles, les messagers transmettraient de l'espoir aux peuples en guerre. Bien entendu, Richard avait également envoyé des courriers à son grand-père. La mort de Warren, un très cher ami, continuait à lui sembler irréelle. Son chagrin, il le savait, serait long à disparaître. Nietzsche lui avait parlé de l'importance du frère Narev pour l'empereur. Formé par le fanatique, Jagang partageait sa vision de l'humanité et de l'avenir qu'elle méritait. Quand il entrerait en Aïdindril, puis investirait le palais des inquisitrices, une surprise attendrait le conquérant. La tête de son mentor, plantée sur une pique et coiffée de son calot. Nietzsche avait jeté un sort au crâne pour qu'il ne se décompose pas et que les charognards s'abstiennent de le dévorer. Depuis que la paix et la liberté régnaient en ville, la vie refleurissait. Des boutiques s'ouvraient chaque jour et on trouvait désormais de nombreuses variétés de pain. Bien entendu, les affaires avaient repris. Ishak gagnait des fortunes avec sa compagnie de transport, mais des concurrents pointaient déjà le bout de leur nez. Nabi travaillait maintenant pour le premier employeur de Richard, qui avait supplié le sorcier, en plaisantant bien sûr, de revenir à l'entrepôt dès qu'il se serait refait une santé. Le charbonnier Faval avait chargé Ishak d'inviter Richard à un dîner en famille. Le brave homme s'était acheté une charrette et ses fils se chargeaient désormais des livraisons. Accoudé au muret de la jetée, Richard baissa les yeux sur l'eau, comme s'il espérait lire l'avenir dans ses profondeurs. Les quais, la jetée et l'esplanade étaient à peu près tout ce qui restait du fief, dont le bâtiment principal avait déjà été rasé. Richard s'était personnellement assuré qu'on retire les runes magiques qui ornaient certaines colonnes. Pour plus de sécurité, Priska les avait refondues. Le sorcier était pratiquement rétabli, et sa femme lui paraissait plus belle que jamais. Pourtant, elle avait changé, son visage gagnant en maturité pendant leur année de séparation. Dès qu'il la regardait, Richard brûlait d'envie de s'emparer d'un marteau et d'un burin pour graver à jamais ses traits dans le marbre. La transmutation de la pierre en chair. Se retournant, le sourcier regarda un long moment l'esplanade. Sur une proposition de Victor, elle se nommait désormais l'esplanade de la liberté. Le sorcier avait suggéré « Esplanade de la vie », mais le forgeron, premier homme à se déclarer libre à Alterang, avait bien le droit à ce petit plaisir. « À quoi penses-tu » demanda Richard à Callan, qui regardait dans la même direction que lui. « Eh bien, Richard, je ne sais pas, je trouve bizarre de la voir si grande. »«
Ça te déplaît ?»«
Non, pas du tout, mais elle est si haute. » Callan parlait de la nouvelle statue qui ornait l'esplanade à la place exacte de celle du sourcier. Des sculpteurs y travaillaient encore, ravis de créer autre chose que des horreurs. Camille était avec eux pour faire son apprentissage. Pour les moments, cela se limitait souvent à jouer du ballet. Richard payait les artistes de sa poche. Avec la fortune gagnée en aidant l'ordre à bâtir le fief, il pouvait s'offrir cette petite folie, et ses anciens collègues étaient très contents de travailler pour lui. Il mettait en ce moment même la dernière main à une reproduction géante de bravoure, la statuette que Richard avait offerte à Callan quand elle avait besoin de vitalité, de courage et de combativité. Taillée dans du marbre de Kavatura, bravoure avait une rudement belle allure. Le cadran solaire, intact après sa chute, serait ajouté sur le socle où les mots gravés par Victor marqueraient à jamais le souvenir d'une fantastique journée. Callan adhérait au projet. Mais après avoir vécu plus d'un an avec la statuette, elle était désorientée par sa version géante. De plus, elle avait hâte que les sculpteurs en terminent et lui rendent le modèle qu'elle aimait par-dessus tout.
J'espère que partager bravoure avec tant de gens ne te dérange pas, dit Richard.
Non, je trouve ça très bien.
D'ailleurs, elle a un grand succès.
Callan eut un petit rire de gorge.
Et il faudra bien que je m'habitue à ce que tu exhibes à tous les vents mon corps et mon âme.
En silence, les deux époux regardèrent les sculpteurs prendre des mesures pour s'assurer que leur reproduction était vraiment à l'échelle. Avec des compas, ils relevaient des angles sur le modèle et les comparaient avec les points de référence, matérialisés par des entretoises, sur la copie agrandie.
« Comment te sens-tu ? » demanda Callan en massant les épaules de son mari.
« Très bien. Maintenant que tu es avec moi, je ne pourrai pas aller mieux. »«
À condition que je ne t'embroche plus. »
Richard sourit, heureux de voir que Callan pouvait plaisanter au sujet de ce sinistre souvenir.
« Quand je dirai à nos enfants que leur mère m'a traversé le ventre avec une épée, tu n'auras pas l'air très fin. »«
Tu crois que nous aurons des enfants ?»«
J'en suis sûr. » »«
Alors je veux bien passer pour une idiote. »
Richard se pencha et posa un baiser sur le front de sa femme. Regardant ensuite les arbres dont les feuilles brillaient au soleil, le sourcier suivit les évolutions d'un vol d'oiseaux qui longèrent les berges du fleuve, puis vinrent tourner en rond au-dessus de l'esplanade et de ses colonnes. Libres comme l'air, ils s'amusèrent ensuite à survoler la grande pelouse qui s'étendait sur l'ancien emplacement du fief. Appuyé contre Richard, Callan savoura également ce spectacle. Un vent nouveau soufflait sur Alter Rang. L'ancien cœur de l'ordre impérial battait désormais au rythme de la liberté.
À Russell Galen, mon premier véritable fan, pour la foi qu'il me témoigne depuis le début.
Vous venez d'écouter L'épée de vérité, livre 6. La foi des réprouvés, de Terry Goodkind, traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet, lu par Vincent Deboire. Une production Audible Studio.